femme, vous lui devez tout. C'est la formule qui fut répétée lors de son enterrement en 1986.
Elle est la mère du genre, sans le savoir, sans le vouloir. Hein ? D'une certaine manière, elle l'est, d'une autre, elle ne l'est pas, parce que la théorie du genre a beaucoup évolué.
Prénom ?
Simone.
Nom ?
Beauvoir.
Date de naissance ?
1908.
Ses études ?
Études secondaires au cours Désir, où elle se lie d'une amitié indéfectible pour Zaza, morte prématurément et dont elle gardera toute sa vie la nostalgie. Études supérieures à la Sorbonne. Sa famille de demi-aristocratie ruinée n'y fait pas obstacle, il est nécessaire désormais de gagner sa vie. Seconde à l'agrégation de philosophie, derrière Sartre, qui a l'avantage d'être un garçon et un normalien. Aux yeux des lecteurs d'aujourd'hui, l'ordre de préséance s'est peut-être inversé.
Elle enseignera ?
Oui, jusqu'en 1943, la philosophie dans de nombreux lycées, depuis Marseille jusqu'à Paris.
Mariage ?
Oh, ne me parlez pas de mariage, je vous prie, hein, c'est immoral. Des amours, nombreuses, Jean-Paul Sartre, mais aussi Jacques-Laurent Bost, le romancier américain Nelson Algren, Claude Lanzmann, et de surcroît, quelques jeunes femmes. Dans ses volumes de mémoire, elle met en relief certains noms, en efface quelque peu d'autres, mais omettre n'est pas mentir pour elle. Elle regrette toujours le caractère asymétrique de nombre de ses relations. Si dans le couple, chacun simultanément pensait à soi et à l'autre, la vie serait beaucoup moins aliénée.
Œuvre principale ?
Alors, les romans, bien sûr, il faudrait parler du prix Goncourt, des mandarins, mais dans le domaine qui nous intéresse, Le deuxième sexe, 1949. Il ne faut pas oublier l'autre ouvrage qu'elle voulait symétrique, La vieillesse, qu'elle publie en 1970, au moment où elle s'engage dans le féminisme. Deux sujets neufs.
Sa mort ?
1986, juste après les élections remportées par la droite. Elle est enterrée aux côtés de Sartre, son perpétuel turban sur la tête, et au doigt, l'anneau donné par Nelson Algren au moment où elle préparait Le deuxième sexe.
France Inter. Intelligence Service. Jean Lebrun.
Sachez, monsieur Lebrun, que tout ce que vous dites est enregistré. Je vous écoute.
Eh bien, petite fille, Simone a été rapidement déconcertée par ce qu'on attendait d'elle dans une famille qui s'affaissait socialement et ne paraissait tenir que par le corset des conventions sociales. Comment Simone a-t-il pu devenir Beauvoir ? Michel Perrault va nous accompagner dans le récit de cette métamorphose.
Sa mère, ça n'avait pas été peut-être le meilleur de sa vie. Hein ? Au fond, elle avait dû se séparer de ses parents. Son père, maurassien, et sa mère un peu complice du père. Hein ? Et c'est ce qu'elle lui reprochait. Elle lui reprochait, en analysant, que la mère ne pouvait pas s'abstraire du père. Elle en était complètement... Elle ne disait pas le mot victime, mais on était le produit, elle ne pouvait pas faire autrement, en quelque sorte. Et ça se ressent quand même dans Une mort très douce, où elle porte un regard rétrospectif sur la vie de sa mère. Et les dernières phrases m'ont presque choquée. Et elle a eu une mort de privilégiée. Ben oui, peut-être. Peut-être a-t-elle eu une mort de privilégiée. Mais je trouve ça un peu dur. Je trouve ça un peu dur. Autrement dit, il y a toujours un petit peu ça chez Simone de Beauvoir. De temps en temps, il y a un côté raide.
Un côté sec, un côté raide qui renvoie aux appartenances sociales, oui. Jugées oui. Intangibles, qui sont dépêchées, quoi, pratiquement.
Oui, ouais, tout à fait. Ouais.
Elle ne peut pas s'empêcher de qualifier socialement les gens dont elle parle.
Absolument. On ne peut pas s'empêcher de qualifier socialement. Le social est un péché, le plus grand péché, le péché originel, finalement. Et elle-même ne s'en est probablement jamais complètement détachée, hein, de ce jugement-là. Et peut-être que... elle nous dit une vérité. Il est probable que c'est cette force... enfin, tout au moins dans les générations passées, qui a été encore la mienne, hein, la force de la pensée sociale marxiste, notamment, a été tout de même extrêmement forte. Et tellement forte que il est probable que quelque part on s'en détache pas. Tout d'un coup, quand on vous, enfin, les riches, les pauvres, les privilégiés, les élites, etc., toutes ces choses qui revivent aujourd'hui si violemment, hein, et à juste titre. Mais on se sent pas bien avec ça. On se sent, oh mon Dieu, dans quel camp suis-je? Voilà.
Elle m'a montré une photographie de sa classe. Six jeunes filles assises dans un parc entre deux religieuses. Il y a quatre pensionnaires vêtus de noir et deux externes en toilette blanche. Maman et une de ses amies. Toutes portent des guimpes montantes, des jupes longues, des chignons sévères. Leurs yeux n'expriment rien. Maman est entrée dans la vie corsetée des principes les plus rigides. Bienséance provinciale et morale de couventine.
Vous avez vos permissions?
Papa, elle s'est épanouie. Elle l'aimait, elle l'admirait. Et pendant 10 ans, il l'a sans aucun doute physiquement comblée. Il raffolait des femmes. Il avait eu de nombreuses aventures et il pensait qu'on ne doit pas traiter sa jeune épousée avec moins de feu qu'une maîtresse. Le visage de maman, avec ce léger duvet qui ombrageait sa lèvre supérieure, trahissait une chaude sensualité. Leur entente sautait aux yeux. Il caressait les bras de maman, la cajolait, lui disait de tendres fadeurs. Je la revois un matin, j'avais 6 ou 7 ans, pieds nus sur le tapis rouge du corridor, dans sa longue chemise de nuit en toile blanche. Ses cheveux tombaient en torsade sur sa nuque, et j'ai été saisie par le rayonnement de son sourire, lié pour moi d'une manière mystérieuse à cette chambre dont elle sortait. Je reconnaissais à peine dans cette fraîche apparition la grande personne respectable qui était ma mère. Je ne blâme pas mon père. On sait assez que chez l'homme, l'habitude tue le désir. Maman avait perdu sa première fraîcheur et lui sa fougue. Pour la réveiller, il recourait aux professionnels du café de Versailles ou aux pensionnaires du Sphinx. Mais ma mère ne s'accommodait pas de son indifférence. Que le mariage bourgeois soit une institution contre nature, son cas suffirait à m'en convaincre. L'alliance passée à son doigt l'avait autorisé à connaître le plaisir. Ses sens étaient devenus exigeants. À 35 ans, dans la force de l'âge, il ne lui était plus permis de les assouvir. Elle continuait à dormir à côté de l'homme qu'elle aimait et qui ne couchait presque plus jamais avec elle. Elle espérait, elle attendait, elle se consumait. En vain. Une totale abstinence eut moins éprouvé sa fierté que cette promiscuité.
Extrait d'une mort très douce consacrée au dernier moment de sa mère. Alors on sait que Beauvoir a tenté avec Sartre une autre expérience qui s'érigea peu à peu en contre-modèle, une expérience de couple libre qui acceptait nombre d'amours contingentes. Il arriva plus d'une fois à Beauvoir de s'y sentir floué. Sartre compartimentait son temps et Simone souffrait que son engagement fût souvent moindre que le sien. Mais ils étaient embarqués dans la même aventure surexposée.
Monsieur Lebrun, peu après la guerre, en plein boom de l'existentialisme, Simone de Beauvoir est déjà connue, comme romancière, conférencière, ou encore par le couple qu'elle forme avec Jean-Paul Sartre. La parution du Deuxième Sexe en 1949 n'aurait-elle pas dû lui permettre de s'imposer comme philosophe à part entière?
Ce livre, près de 1000 pages en 2 tomes, paraît alors que semblent réaliser les objectifs de la première vague du féminisme qui réclamait depuis si longtemps les droits civiques. Les Françaises sont devenues en effet des électrices assidues et elles sont nombreuses, du moins dans les années de l'immédiate après-guerre, à être élues. Alors Simone de Beauvoir subvertit l'opinion commune établie en affirmant qu'il faut maintenant poser d'autres questions. Michel Perrault, l'historienne, fut parmi les premières lectrices du Deuxième Sexe par le biais d'une pré-publication dans la revue que dirigeaient Sartre et Beauvoir.
J'avais déjà lu un peu Simone de Beauvoir quand j'étais étudiante, parce que le deuxième sexe, il y a des chapitres qui avaient été publiés dans les temps modernes. Et c'était d'ailleurs des chapitres qui avaient déchaîné déjà beaucoup de critiques, parce que c'était justement assez sexuel. Hein. J'étais une jeune fille très rangée. Alors là, si Simone de Beauvoir était rangée, moi je l'étais beaucoup. Et j'avais été un peu surprise, quand même un peu étonnée. Et puis, j'ai repris ça plus tard, quand j'étais jeune professeur à Caen, où j'avais du temps pour lire. Et là, évidemment, j'ai découvert le deuxième sexe dans toute son ampleur. Avec parfois, par moments, ça m'ennuyait, très curieusement, parce que il y a beaucoup de références. C'est un livre bourré de références. C'est vraiment très très érudit. Et par moments, je trouvais que c'était un petit peu long, voilà. Mais je l'ai lu, je me le suis approprié. Et j'avais deux collègues dont vous connaissez une très bien, notamment Mona Ozouf et Nicole Ledouarin. Mona Ozouf, philosophe, Nicole Ledouarin, professeur de sciences naturelles, comme on disait à l'époque. Et pour nous, Simone de Beauvoir, on en parlait. On parlait pas forcément du deuxième sexe. Hein. On parlait d'elle. Voilà. Elle, son couple avec Sartre, pardon, ses voyages, ce qu'elle faisait. C'était le couple Sartre-Beauvoir, Beauvoir-Sartre, c'était un peu comme des familiers.
Oui, des familiers, mais ce couple, il était détesté autant qu'admiré. Dans le déchaînement de critiques que va provoquer le deuxième sexe, il faut entendre l'écho de l'hostilité que déclenche Sartre. Alors voici la voix de Beauvoir maintenant.
Des gens m'ont demandé, alors vous n'êtes tout de même pas féministe quand je soutenais des thèses du deuxième sexe. Et tout le monde a commencé à décrire les féministes comme des femmes tordues, velues, mafflues, affreuses, etc., etc. Et réflexion faite, je trouve que nous ne sommes peut-être pas toutes des prix de beauté, mais nous ne sommes pas tellement plus moches que la moyenne des femmes.
Finalement, c'est un ouvrage qui n'a pas énormément de rigueur, même dans sa conception et dans son exécution. Elle-même le dit, Simone de Beauvoir, dans ses mémoires.
Oui, oui. Elle n'avait pas l'intention de faire un ouvrage aussi volumineux. Puis Sartre lui a dit, votre étude reste en l'air si vous ne la prolongez pas par des vues sur la biologie, l'histoire, etc. Elle a continué. Et elle a continué sans joie. Elle le dit. Oui. Et voilà, on se trouve devant ce paradoxe que cet ouvrage, elle s'y est maintenant attachée d'une façon telle qu'elle s'agite à l'idée qu'on puisse même le discuter.
Pour ses adversaires, on vient d'entendre la romancière belge Suzanne Lillard. Beauvoir, c'est une philosophe sans originalité, c'est l'ombre de Sartre. Pourtant, c'est à un autre nom qu'il faut penser si on cherche une source déterminante du deuxième sexe. Maurice Merleau-Ponty, qui, au nom de la phénoménologie, dit que nous sommes ce que nous devenons. Notre destinée est de devenir libre, et le devenir passe par le corps. C'est la leçon que tire du deuxième sexe notre seconde interlocutrice. Camille Froidevaux-Métry appartient à une autre génération féministe que Michel Perrault.
Elle a beaucoup travaillé à partir des travaux de Merleau-Ponty et en discussion avec lui. Ils étaient contemporains, ils étaient très amis, donc il y avait quelque chose de vraiment de l'ordre de l'échange intellectuel, sans doute bien plus avec lui qu'avec Sartre sur ces questions qui concernent les femmes. Merleau-Ponty, c'est aussi pour Simone de Beauvoir l'occasion de creuser cette proposition phénoménologique qui est très simple, qui est de dire que être un sujet et être son corps, c'est la même chose. Subjectivité et corporité se tiennent ensemble parce que tout individu a nécessairement un rapport à lui-même, au monde et aux autres, qui passe par le corps. C'est pas seulement que le corps est le véhicule de la relation aux autres, mais c'est aussi qu'on a accès au sens des choses que de façon incarnée. Et ce que fait Simone de Beauvoir, c'est qu'elle ajoute quelque chose qui est totalement absent de l'œuvre de Merleau-Ponty et plus largement des autres philosophes phénoménologues, qui est la sexuation. C'est-à-dire que les grands théoriciens phénoménologues évoque souvent le corps vécu, le corps propre, mais c'est un corps générique. En fait, c'est un corps mâle. Simone de Beauvoir va ajouter la sexuation puisqu'elle dit « la femme, comme l'homme, est son corps ». Ça, c'est, on pourrait dire, une sorte de slogan phénoménologique. Mais elle est aussi autre chose que cela. Elle est corps pour autrui, c'est-à-dire elle est corps pour l'homme. Et donc, tout le deuxième sexe, c'est un projet de mise au jour de la façon dont le corps des femmes est corps pour les hommes, corps sexuel et maternel, pour justement dénoncer en quelque sorte cet enfermement et pour réclamer que le corps devienne ce qu'il est, c'est-à-dire aussi un corps sujet. Je crois qu'elle incarne pleinement son propre projet féministe. Elle décrit le plaisir qui était le sien à éprouver son corps dans la fatigue des grandes randonnées. Mais elle décrit aussi, je pense notamment au recueil de ses lettres à Nelson Algren, le plaisir qu'elle avait à s'imaginer porter telle ou telle tenue pour une prochaine rencontre avec lui. Elle décrit aussi le plaisir qu'elle avait à porter quelques bijoux. Elle parle des compliments qu'on lui fait à ce propos. Elle est, je crois... peut-être l'exemplification même de ce que ça peut être d'être son corps quand on est une femme, mais de l'éprouver en étant libre et en étant en pleine possession de son propre corps, c'est-à-dire en ne l'abandonnant pas aux autres, en le vivant dans toutes ses dimensions, y compris dans ce que ça peut signifier d'accomplissement et de gratification sexuelle, parce que ça, dans ses lettres aussi, c'est manifeste et c'est très beau d'observer à quel point elle est... Alors, elle n'est pas très explicite, elle reste assez allusive, mais on voit bien que c'est une dimension importante de sa relation à Nelson Algren, notamment. Simone de Beauvoir, c'est vraiment le corps-sujet dans toute la multiplicité de ses facettes.
La correspondance avec Nelson Algren, c'est un romancier américain... dur à cuire. Cette correspondance, elle est publiée en 1997. Elle nous fait voir sous un autre angle la préparation du deuxième sexe qui s'est fait au moment où elle vivait avec Algren une relation érotique électrique aux États-Unis. Les États-Unis, où le succès du deuxième sexe fut plus grand qu'en France, en dépit d'une première traduction fautive. Mais c'est un peu partout dans le monde que le livre a infusé, lentement, déclenchant un fleuve de correspondance qui jamais ne tarit, quelques 20 000 lettres conservées dans le fonds Beauvoir de la BNF, dont celle de Colette Avran.
Ça, c'est la première lettre.
Ah oui. Il y a le tampon de la poste de 1964.
Vous ne me connaissez pas, mais ne jetez pas tout de suite ma lettre. D'abord, je voulais vous dire que j'ai été enthousiasmée par les livres de vous que j'ai lus. Ils ont changé beaucoup mes idées. J'ai mis 5 ans à m'apercevoir que je ne croyais plus en Dieu. Pourtant, c'est insuffisant. Je suis une tourmentée et une instable. Alors, je vous demande, expliquez-moi pourquoi Dieu n'existe pas. Ou si ça vous ennuie, demandez à Sartre de me l'écrire. J'espère que vous lirez jusqu'au bout. Il vaudrait mieux que je me présente. J'ai presque 16 ans, je suis une bonne élève, mais une révoltée. J'étouffe dans le milieu familial, au lycée. Je vais peut-être s'arrêter là. Elle avait une écriture épouvantable. Alors, chère Colette Avran, vous me posez une grande question. Il faudrait un livre ou des livres pour répondre. Quand vous serez en classe de philosophie, vous apprendrez là-dessus beaucoup de choses et vous pourrez lire « L'être et le néant » de Sartre. Votre lettre m'a beaucoup touchée et j'espère que vous me donnerez de vos nouvelles. En quelle classe serez-vous l'an prochain? Avec beaucoup de sympathie, Simone de Beauvoir. C'est une jolie lettre. Ouais. J'ai donc fait cette lettre qui est une lettre de jeune fille, parce que c'était une époque où j'étais pas bien du tout. Je me sentais très seule. Donc je me posais des tas de questions et j'étais complètement bouleversée par l'homosexualité, que je ne vivais pas bien du tout et que je ne comprenais pas, et je n'osais pas en parler. C'était difficile à l'époque. Maintenant, je vois les jeunes filles, je trouve ça extraordinaire, mais c'était avant 68. Ma mère, c'était très difficile pour moi de parler avec elle. Et du coup, Simone de Beauvoir est devenue une espèce de phare. Je pouvais faire certaines choses puisque elle le faisait.
Colette Avran visitait très régulièrement Simone de Beauvoir, rue Schoelcher, dans l'appartement que celle-ci avait acheté, un petit appartement du côté d'Enfer Rochereau. C'était après les mandarins, le prix Goncourt. Et toutes deux puisaient dans le mur de disques que Simone de Beauvoir possédait et qui était alimenté régulièrement par Jean-Paul Sartre, qui venait, traversant le cimetière Montparnasse où ils seront enterrés tous les deux, lui rendre lui aussi visite. Il lui a fait découvrir notamment les madrigaux de Gesualdo, dont Simone de Beauvoir a dit à plusieurs reprises qu'ils étaient admirables.
Intelligence, service. France Inter.
Simone de Beauvoir est lue par d'innombrables femmes de par le monde. Pourtant, dans les années 50-60, elle ne lève pas la bannière du féminisme. Pourquoi ne s'en revendiquera-t-elle qu'à partir des années 1970, Monsieur Lebrun?
Parce que longtemps pour Beauvoir, le militantisme politique incessant s'était pratiqué aux lisières des extrêmes gauches, dans la compagnie de Sartre. Mais au tournant des années 60-70, alors que Sartre, après mai, était aimanté par le maoïsme, le mouvement féministe qui renaissait et représentait bien davantage l'avenir, vint tout naturellement demander le soutien de Beauvoir, Michel Perrault.
Il ne faut pas oublier l'intensité des mouvements féministes des années 70. Ça commence vraiment en 70 pour l'accès à la contraception qui était légal à cause de la loi Neuwirth, mais auquel pratiquement les femmes n'avaient pas accès. Dans les pharmacies, pour aller demander la pilule, il fallait prendre son courage à deux mains. C'était encore très difficile. Et évidemment, l'accès à l'avortement, qui était un tabou terrifiant. Encore à ce moment-là. Et ce n'est pas Simone de Beauvoir qu'on doit ces lois. On les doit à Evelyne Sullereau, on les voit à Madame Veillalet, bien entendu à Gisèle Halimi, qui a très bien connu Simone de Beauvoir, et naturellement à Simone Veil, et au mouvement des femmes, parce que les milliers de femmes étaient dans la rue à manifester, etc., etc. Et au fond, Simone de Beauvoir s'est très bien rendu compte de l'importance de cela, et elle a été, j'allais dire, tout naturellement. Et plus que cela, elle a apporté sa caution, elle a été dans les manifs, dans tout ce que vous pouvez imaginer. Elle était là, complètement.
Et elle comprend que ce qui se passe là, c'est une révolution anthropologique. Pour la première fois, les femmes vont pouvoir se débarrasser de l'angoisse de la maternité non désirée. Et c'est pour que ce changement aille jusqu'au bout qu'il faut ajouter à l'accès aux produits contraceptifs le droit à l'avortement. En 1971, Beauvoir patronne un texte collectif de la première importance qui paraît dans le Nouvel Observateur et qu'on appellera le Manifeste des 343 salopes.
1 million de femmes se font avorter chaque année en France. Elles le font dans des conditions dangereuses, en raison de la clandestinité à laquelle elles sont condamnées. Alors que cette opération, pratiquée sous contrôle médical, est des plus simples. On fait le silence sur ces millions de femmes. Je déclare que je suis l'une d'elles. Je déclare avoir avorté. De même que nous réclamons le libre accès aux moyens anticonceptionnels, nous réclamons l'avortement libre.
Je crois que la première démarche que j'ai faite en tant que féministe, ça a été de signer le manifeste qu'on a appelé des 343 salopes, disant que nous avions avorté, où il y avait des noms connus et il y avait des noms beaucoup moins connus, mais dans l'ensemble, c'était une revendication des femmes pour l'avortement. Parce qu'on pensait que si nous disions que nous avions avorté, eh bien, on aurait dû nous arrêter. Mais comme, en fait, le gouvernement n'a pas osé nous arrêter, implicitement, il ferme les yeux sur la question.
On se promène la peur au ventre dans la crainte de la prison. D'avorter dans ces conditions. On se promène la peur au ventre, dans la crainte de la prison. Ceux qui sur nos ventres font des lois devront un jour écouter notre voix.
Vous êtes mariée?
Je suis mariée, j'ai 3 enfants.
Gisèle Halimi.
Et
pour vous dire,
que vous auriez pu en avoir d'autres?
Si j'avais voulu, oui.
Oui.
Je n'en ai voulu que 3 et j'ai avorté 3 fois.
Oui, mais est-ce que, alors vous dites ça tout de même, est-ce que vous dites ça par défi ou est-ce que vous dites ça comme une information que tout le monde doit savoir?
Je dis ça parce que je dis qu'il faut dire la vérité, que le vrai scandale dans l'avortement clandestin et dans l'oppression des femmes, c'est l'hypocrisie, c'est ce qu'on dissimule. La vérité, c'est que toutes les femmes avortent, y compris les femmes de députés, et les maîtresses des ministres, et tout le monde. Seulement, elles ne le disent pas. Et nous le disons. Et moi, je l'ai dit, je crois, nous avons été les premières dans le manifeste des 343 à le dire. Nous l'avons fait, on a trouvé ça scandaleux, une provocation, peut-être un peu d'ailleurs. Mais est-ce que vous ne croyez sûrement pas qu'il y a certains, sûrement, pas si sûr que ça, Bernard Pivot, il y a des scandales qui sont encore plus scandaleux.
Et que
la société récupère très vite. Il y a des scandales qu'on récupère et qu'on étouffe. Le vrai scandale, c'est celui-ci. Le vrai scandale, c'est de ne plus justement, de ne plus dénoncer le scandale. Et ça, c'est un scandale. Il n'est plus possible que les femmes aujourd'hui, et je le dis en France, en 1973, soient réduites à ce rôle, au rôle de réceptacle.
Beauvoir, au temps du deuxième sexe, avait eu tendance à dire que les femmes n'avaient pas compté dans l'histoire. Ben, bien sûr que non. Maintenant, elles entrent dans le récit de l'histoire qu'elles écrivent elles-mêmes.
C'est la première grande manifestation féministe qui se tient à Paris depuis 1936. Environ 2000 femmes, souvent jeunes, quelquefois plus âgées, défilent de la République à la Nation à l'appel du MLF, le Mouvement de Libération de la Femme. Les militantes féministes de 1971 réclament en toute priorité une sexualité heureuse et déchargée des angoissants problèmes matériels, et elles revendiquent la contraception libre et gratuite et la liberté de l'avortement.
Le MLF a organisé le 20 novembre, en liaison avec des manifestations féministes qui se sont déroulées ce jour-là un peu partout dans le monde, un défilé, à travers Paris, de femmes qui réclamaient la liberté de la maternité, de la contraception et de l'avortement. J'y ai pris part. Nous avons marché de la République à la Nation, occupant toute la chaussée, portant des pancartes où étaient inscrits des slogans. Des militantes brandissaient des torchons, des fils de fer auxquels étaient suspendus du linge sale, des poupées en papier, des baudruches. L'une d'elles distribuait du persil, symbole de l'avortement clandestin, dont certaines plantaient des branches dans leurs cheveux. Nous étions environ 4000, en majorité des femmes, mais il y avait aussi des hommes, pour la plupart chevelus et barbus. On a lâché des ballons, chanté, scandé des mots d'ordre, enfants désirés, enfants aimés, maternité libre. Des parents avaient amené leurs enfants et on voyait des gosses de 6 ans crier avec les adultes « Nous aurons les enfants que nous voudrons !» C'était sous un beau ciel froid, très vivant, très gai et plein de fantaisie. Ce qui était intéressant, c'est que la plupart des femmes que les manifestantes abordaient sur les trottoirs se déclaraient de cœur avec nous et nous applaudissaient.
Un seul incident durant ce défilé pour montrer leur opposition au lien du mariage, 300 manifestantes se sont détachées du cortège en passant devant l'église Saint-Ambroise et ont pénétré dans l'église où avait lieu un mariage.
Nous avons crié « La mariée avec nous ! Libérez la mariée !» Et l'avant-garde du cortège a quitté la chaussée pour entrer dans l'église. Le curé a discuté un moment avec les militantes et nous sommes repartis vers la Nation. Il y a eu de nouveaux chants, des farandoles. C'était une fête joyeuse et fraternelle.
L'année d'avant, c'est pas une coïncidence, on n'y a pas prêté assez attention. En 1970, en même temps qu'elle s'engageait dans le féminisme, Beauvoir a publié un livre auquel elle tenait autant qu'au deuxième sexe et qui avait exigé autant de documentation, La vieillesse. À l'époque, le passage de la cinquantaine était pour beaucoup de femmes une ligne de partage. Et Beauvoir avait très vite repéré avec angoisse les signes du vieillissement qui la gagnait. Mais le mouvement féministe rebat son jeu, lui redonne des cartes. Il permet le passage de relais d'une génération à l'autre. L'un de ses secrets, dorénavant, ça va être la transmission. Simone se voit maintenant entourée de militantes plus jeunes qu'elle reçoit, qu'elle encourage, qu'elle interroge. Ici, Anne Zelensky.
Vous m'avez demandé pourquoi j'étais féministe. Eh bien, moi, je voudrais vous demander aussi à chacune d'entre vous, en somme, quelles sont les origines de votre féminisme, vous, par exemple, Anne.
Voilà une question bien, bien immense, parce que je crois que je suis féministe depuis que j'ai accédé à la conscience, pratiquement. Je suis d'abord féministe, je crois, parce que j'ai la capacité de m'indigner. Je ne considère pas que l'injustice va de soi et je ne m'habitue à rien. En cela, je crois que je suis rebelle profondément et que les féministes sont des rebelles. Je suis également féministe sans doute parce que pour moi, c'est la plus prestigieuse aventure qui existe. Quand j'étais adolescente au lycée, je faisais mes études, il y avait un rêve que je reprenais toujours, un rêve éveillé, c'était d'avoir pu participer à la découverte de l'Amérique. Ça m'a toujours fascinée, cette aventure. Mais je savais très bien que je n'aurais pas pu le faire parce que les femmes ne participaient pas à la découverte de l'Amérique, sauf comme épouses exceptionnellement des conquérants. De toute façon, ce qui m'aurait intéressé, ce n'était pas conquérir, mais découvrir. Et donc, si vous voulez, ce rêve est devenu une réalité quand j'ai rencontré, à partir de 67-68, les autres femmes avec lesquelles nous avons commencé à prospecter ce qui est pour moi un monde vraiment nouveau. Ce monde de la pensée, de la réflexion que nous ouvre le féminisme. Pour moi, le féminisme, c'est une espèce de lorgnette d'approche du monde qui me le fait voir autrement.
En 70, il y avait beaucoup d'humour, hein, le torchon brûle, il y a beaucoup de slogans féministes, même dans les rues avec les pancartes des années 70, qui sont très marrants, hein, plein d'humour, beaucoup d'humour. Mais peut-être pas le deuxième sexe, c'est très sérieux.
Inter. Intelligence, service.
Beauvoir est morte en 1986, après avoir joué un dernier rôle d'emblème dans ce qu'on a appelé le féminisme d'État, le moment féocrate, à l'époque du ministère d'Yvette Roudy. La troisième vague du féminisme est née après sa disparition et elle va poser bien sûr de nouvelles questions qui auraient beaucoup étonné Simone de Beauvoir. Par exemple, pour Simone de Beauvoir, la maternité, c'était pas le premier objectif. Eh bien, voici notre deuxième interlocutrice, Camille Froidevaux-Métry, philosophe, qui incarne ces interrogations d'une époque nouvelle. Pour elle, le féminisme est passé par la maternité.
Ce qui s'est passé plus exactement, c'est que j'ai eu mon premier enfant exactement au même moment que mon premier poste à l'université. Donc j'ai dû vivre dans la même séquence temporelle de quelques mois, deux événements que j'attendais avec impatience l'un et l'autre, mais j'avais pas imaginé qu'ils arrivaient en même temps. Et alors autour de moi, tout le monde trouvait ça vraiment fabuleux que tout m'arrive en même temps. Moi, simplement, j'étais sous l'eau et je vivais cette condition duale avec pas mal de difficultés. Et puis surtout, je commençais à m'interroger sur le fait que, aux yeux de la société, ce qu'on me demandait, c'est de vivre tout ça en souriant et comme quelque chose de l'ordre de l'évidence. Or, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, le fait de devoir vivre comme ça à la fois une vie sociale professionnelle pleine et entière et ce statut maternel qui était celui des femmes depuis toujours, c'est quelque chose d'assez inédit. Et donc c'est là que j'ai commencé à m'interroger et à lire la pensée féministe et à découvrir les études de genre qui faisaient alors leur apparition en France au début des années 2000. Et très très vite, ça m'a frappée. J'ai observé que la question qui m'intéressait alors, donc la question maternelle, était quasiment absente. C'est-à-dire que non seulement c'était pas un objet de recherche, mais c'était même pas un objet d'intérêt. Et c'est ce constat d'une curieuse disparition de la maternité et au-delà de ça, du corps des femmes en général dans le champ du féminisme qui m'a amenée à m'y intéresser de plus près et quasiment me spécialiser justement sur cette dimension corporelle de l'existence des femmes aujourd'hui.
Et au niveau de sa vie familiale, il paraît normal, Camille Froidevaux-Métry, d'exiger de l'homme qu'il la partage, bah qu'il prenne une part plus grande, à la vie domestique, masculinisation de l'intime. Et puis elle observe la manière dont ses enfants vont considérer les rôles que la société leur propose. À 2 ans, son bébé distingue qui autour de lui est un homme, une femme. Mais pourquoi faut-il ensuite que lui soit désigné, très vite, par ses vêtements, ses jouets, un destin en bleu et rose ? C'est drôle, l'émancipation prend de curieux chemins. Quand elle avance dans un domaine, elle recule comme par un effet de balançoire dans un autre. Et quand sa fille arrive à l'adolescence et qu'il faut lui acheter son premier soutien-gorge, Camille Froidevaux-Métry va prendre un coup de sang.
Pour moi, c'était un petit peu une sorte de rite de passage, d'entrée dans son corps féminin. J'ai rapidement déchanté puisque dans le magasin où nous étions, le seul modèle qu'on a proposé à ma fille, c'était la version réduite des soutiens-gorges qui s'imposent aujourd'hui massivement aux femmes, c'est-à-dire des soutiens-gorges rembourrés et coqués. Et j'étais assez choquée. Donc du coup, ça s'est transformé pour ma fille plutôt en rite de passage féministe, puisqu'on est rentré dans une conversation sur ce curieux diktat qui lui imposait, à peine avait-elle un premier renflement, qu'il fallait déjà que ses seins soient plus gros, plus ronds. Je trouvais ça assez scandaleux et elle m'a assez vite rejoint sur le constat. Le sein socialement désirable, c'est le sein... Le seul qu'on voit hein, dans l'espace public, sur les affiches publicitaires ou dans les films et les séries, la demi-pomme idéale, c'est-à-dire un sein qui est suffisamment haut, suffisamment rond, suffisamment ferme, mais c'est un sein qui ne correspond pas du tout au vrai sein des femmes.
Et là, vous dites, à propos des soutiens-gorges destinés aux adolescentes, qu'au fond, il y a des injonctions par le commerce, vous avez dit aussi par la publicité, plus prégnantes aujourd'hui qu'auparavant.
Oui, je crois qu'il y a une intensification de l'assignation des femmes à leur corps, de l'enfermement des filles et des femmes dans des idéaux corporels. Et je crois que ça s'explique. Je crois que c'est le prix que les femmes ont à payer pour leur émancipation sociale et professionnelle. Dans les années 80, 90, 2000, les femmes ont progressivement investi assez massivement, hein, le monde du travail notamment. Elles ont fait les métiers qui étaient jusque-là réservés aux hommes. Elles ont accédé à des postes de pouvoir. Et dans le même temps, on a vu apparaître, on a vu se multiplier des injonctions esthétiques. Par exemple, c'est dans les années 90 qu'on invente le soutien-gorge push-up, rembourré avec des coussinets qui n'existaient pas jusque-là et qui est devenu quasiment ultra-dominant dans les années 2000. Un soutien-gorge qui est destiné à formater les seins des femmes pour qu'ils souscrivent à l'idéal esthétique dominant. À cet idéal patriarcal, hein, parce qu'il faut quand même dire le mot.
La vague la plus récente du féminisme, commencée après la mort de Simone de Beauvoir, se caractérise par un nouveau questionnement sur le genre et l'idée d'intersectionnalité. Commençons par le genre, si vous voulez bien, Monsieur Lebrun.
Dès lors que Beauvoir a affirmé que le rôle qui était assigné à la femme n'était pas une affaire de nature mais de culture, Michel Perrot, par exemple, pense qu'il est permis de dire qu'elle est la mère du genre. Le genre, en effet, désigne les processus et les rapports sociaux qui divisent l'humanité en groupes distincts. Mais le genre ne cesse de bouger. Au temps de Beauvoir, on était dans la binarité, à tel point que, lorsqu'elle a emmené Nelson Algren dans les cabarets travestis de Paris, le dur à cuire de Chicago allait de perplexité en perplexité.
«
Malgren trouva l'art du striptease beaucoup plus raffiné à Paris qu'à Chicago. La soirée la plus mémorable fut celle que combinèrent Monique Lange et Goïti Solon. Après un dîner au Baobab, Monique proposa de boire un verre au fiacre. Décidément, je vivais en marche du siècle car je fus un peu éberluée par cette cohue de jeunes garçons et d'hommes beaucoup moins jeunes qui jacassaient, se cajolaient, des mains se glissant avec franchise sous les pulls verts en angora. Valgren était beaucoup plus étonné que moi. Au carousel, charmé par les premières effeuilleuses, il fut si mystifié d'apprendre qu'elles appartenaient au genre masculin qu'il se mit presque en colère. Ah, elle et lui, il perdit tout à fait la tête. Il y avait, vêtu en femme, des hommes et des femmes, et des hommes et des femmes, vêtus en hommes. Il ne savait plus à quel sexe se vouer.
Je dois dire que dans les années 70-80, on n'en parlait pas beaucoup du transgenre. Et c'est en train de devenir aujourd'hui, bien des décennies après, une réalité. Hein ? Moi, comme ça, c'est anecdotique peut-être, mais c'est intéressant. Un ami me téléphone, on parle de toutes sortes de choses, et il me dit « Ah ben moi, je vis dans ma famille les transformations actuelles. Ma fille est lesbienne, hein, et deux enfants de ma sœur se sont déclarés transgenres. » C'est pas des gens de 20 ans et qui se découvrent transgenres. Et je pense que ça va en effet advenir. Que des choses qui, dont on ne parlait pas parce que on en parle et que donc les gens peuvent en parler et peut-être découvrir des choses qu'ils n'auraient jamais découvertes en eux-mêmes. Hein. C'est très compliqué tout ça. Oui, tout ça advient.
Alors peut-on encore binariser alors que gagne la fluidité, Camille Froidevaumétrie ?
Grande révolution théorique qui est celle des études de genre et des études queer, dont le principal apport, selon moi, c'est précisément de nous permettre de penser un peu au-delà de la binarité et de considérer qu'on peut penser le corps, qu'il soit féminin ou masculin, justement, sans le qualifier nécessairement au prisme de la fluidité. Alors, ce qui est important, c'est simplement de se dire que nous pouvons faire des choix de vie sexués ou genrés qui ne coïncident pas, par exemple, avec les corps dans lesquels nous sommes nés. La simple possibilité que cela puisse être remis en question, elle est très importante parce qu'elle permet aux individus, alors qu'on appelle aujourd'hui cisgenres, de repenser et éventuellement de déconstruire ce qu'on appelle les stéréotypes genrés. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est, disons, en coïncidence avec son sexe de naissance qu'on est d'accord pour assumer les représentations, les fonctions, les rôles genrés qui nous sont imposés du fait même de cette sexuation féminine. Et c'est ce que dit Beauvoir précisément, c'est très exactement ça. Elle dit « Les femmes comme les hommes sont des sujets de liberté, mais il se trouve qu'au regard de l'histoire et de l'enfermement dans le rôle domestique et familial qui a été le leur, elles ont été empêchées de s'épanouir et d'éprouver concrètement cette liberté qui doit être la leur en tant que sujet. » Eh bien, c'est très exactement ça qu'il faut faire aujourd'hui, c'est déconstruire et se débarrasser des rôles genrés, pouvoir, quand on est une femme, faire le choix de ne pas avoir d'enfant, par exemple, pouvoir, quand on est un homme, faire le choix d'arrêter de travailler pour s'occuper de ses enfants, par exemple, pour qu'enfin les rôles soient débinarisés et pour qu'enfin, ce qu'on appelle l'égalité femme-homme puisse advenir.
Pourrions-nous évoquer maintenant l'intersectionnalité ?
Intersectionnalité, c'est cette idée très importante que les discriminations et inégalités de genre ne résonnent pas pour toutes les femmes de la même façon, puisqu'il faut toujours prendre en compte d'autres facteurs d'oppression, et notamment des facteurs d'oppression de race et de classe. C'est pas du tout la même chose d'être enceinte et d'allaiter, par exemple, selon qu'on appartient à une classe sociale favorisée ou selon qu'on a peu de moyens et qu'on est une femme racisée. Par exemple, le choix de l'allaitement, parfois, c'est pas du tout un choix, puisque c'est ce qui est le moins cher pour les femmes, et donc on peut considérer qu'il y a certaines femmes pour lesquelles c'est même pas dans les termes du choix que cette question de l'allaitement se pose. Donc c'est un exemple qui illustre cette notion de l'intersectionnalité, c'est-à-dire de la nécessité de toujours considérer que les facteurs d'oppression sont divers et qu'il faut toujours essayer de tenir ensemble les facteurs de genre, de race et de classe.
Alors évidemment, un des traits du féminisme, ça a toujours été, en même temps qu'il était transmis de génération en génération, d'être divisé. Déjà à l'époque du MLF, un groupe avait déposé la marque et empêchait les autres groupes de l'utiliser. On pourrait évoquer 1000 querelles Simone de Beauvoir a connu celle de la prostitution. Elle a soutenu le mouvement des prostituées. Mais aujourd'hui, il y a un axe libéral qui parle des travailleuses du sexe et qui s'oppose à l'axe abolitionniste. Et puis un autre débat attire l'attention de l'opinion. Alors que Camille Froidevaux-Métry voit pointer un individu générique que plus aucune injonction de genre ne déterminerait, se pose dans l'immédiat la question sans cesse, faut-il privilégier les réunions de femmes entre elles ? Michel Perrault.
Dans les années 70, les femmes pensaient qu'elles avaient des choses à se dire entre elles. Hein, et que par conséquent, ça allait presque de soi de faire des réunions non mixtes. Je n'ai jamais été chez Simone de Beauvoir, rétrospectivement d'ailleurs je le regrette un peu, mais j'ai participé à des réunions de ce genre. Je me souviens même, à Jussieu, où j'étais déjà enseignante, où on avait décidé avec Françoise Bache, ma collègue, de faire un groupe d'études féministes. Et il y avait pas mal de monde, enfin vingtaine de personnes, et puis on s'est posé la question. On s'est dit, est-ce qu'on sera mixte ? On n'était que des femmes. Est-ce qu'on admettra des hommes ? Problème. Alors on a dit, on vote. Et la majorité a été pour non. On n'admet pas d'hommes. Moi, j'avais voté oui, mais j'ai même pas osé le dire. Bon, l'idée que il fallait être entre soi, que et c'était pas faux d'ailleurs, c'était juste probablement, et que on avait tellement de choses personnelles, intimes à dire, à mettre sur la table.
Mais alors, d'un autre côté, moi, j'ai lu sous sa plume, je répugne absolument à l'idée d'enfermer la femme dans un ghetto féminin.
Ah, bien sûr. Bien sûr, mais il faut bien s'entendre sur la non-mixité. Cette non-mixité ne concernait, dans les époques dont nous venons de parler, et je pense aujourd'hui, que des moments ponctuels où les femmes, à l'égal des hommes, ont besoin de se retrouver entre elles pour parler de leurs problèmes. Voilà. Mais le monde est mixte. Les femmes qui travaillent, elles travaillent avec des hommes, etc. Et elles veulent la même chose que les hommes. Il n'y a pas. Je pense que la mixité s'impose. La non-mixité, c'est ponctuel.
Allez, aurait dit Simone de Beauvoir, pas de dogme égard à la conflictualité qui reproduit celle que les hommes entretiennent entre eux et qu'ils voient avec plaisir se développer chez les féministes, c'est leur intérêt. Merci à Camille Froidevaux-Métry. Elle vient de publier chez Anna Moza « Saint, une libération » et à Michel Perrault qui vient de publier chez Textuel « La place des femmes ». Les lectures, Caroline Mounier. À la technique, Emmanuel Arming. La prise de son, Éric Audra et Thomas Robin. Les agents d'intelligence service, Frédéric Martin et Franck Olivard. La réalisation, Audrey Ripouille.